Alors, nous allons embrayer sur la première communication de l'après-midi, sous un format inédit, particulier. Le docteur Notre-Dame, qui devait intervenir, a été appelé sur un autre continent. Après avoir essayé d'envisager de faire ça en visio, on s'est rabattu sur une vidéo qui dure 27 minutes, qui va vous être projetée immédiatement. Et son intervention sera complétée ensuite par le docteur Bubrowski. Pour la petite anecdote, nous avons reçu la vidéo vers 20h50 hier, un petit moment de panique. Et pour combler, le docteur Bubrowski s'était engagé à faire un numéro de claquette avec une histoire de plume, je n'ai pas trop compris. Il est encore bien motivé, donc si vous voulez le voir, vous limitez les questions. Si vous voulez échapper à ça, bon, il va falloir trouver de quoi meubler l'heure, hein, jusqu'à 15h. Donc voilà, tout de suite intervention vidéo.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles-Édouard Notre-Dame, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Lille et je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est en distanciel et si c'est de façon asynchrone par vidéo. J'ai dû me rendre au Québec, ce qui fait que j'ai lâchement abandonné Maxime Bubrowski pour cette présentation et du coup j'essaie de me rattraper un peu avec cette vidéo. J'espère que je me rattraperai au mieux. Et l'idée c'était de vous parler de la question de la crise en dehors des murs du centre de crise, en particulier de la crise des jeunes. Et alors, comment c'était crise des jeunes? Je vais plutôt vous parler de la crise des ados, d'abord parce que c'est mon dada et parce que je pense que ça fait du sens d'un point de vue développemental. On va le voir ensemble et en fait, on va le voir tout de suite. Alors, je partage mon écran immédiatement, si j'y arrive. Bougez pas. Hop, hop. Partager l'écran. Voilà. L'idée, c'est de se dire que, avant même de parler de la question de la crise psychopathologique, hein, la crise qui fait mal-être, comme la crise suicidaire par exemple, il s'agit déjà de se dire que la crise en dehors des murs du centre de crise, c'est déjà une forme de crise développementale qui serait la crise d'adolescence. Alors évidemment, c'est extrêmement galvaudé. Évidemment, la crise d'adolescence peut laisser entendre toute une série de représentations qui sont tout à fait erronées. En fait, la notion de crise, et c'est pas dans une journée comme celle-ci qu'il faut le rappeler nécessairement, mais la notion de crise est extrêmement polysémique. Et autant il y a beaucoup d'acception de la notion de crise qui sont très erronées pour ce qui est de l'adolescence, autant la notion de crise dans son sens systémique et particulièrement systémique développemental est extrêmement appropriée et permet même de définir, d'après moi, ce que c'est l'adolescence. Et c'est important de l'avoir en tête avant même de réfléchir à ce que peut être la crise psychopathologique chez les adolescents. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce que l'adolescence, elle peut être conçue de manière relativement simple, comme de la même manière que n'importe quelle crise de système, c'est-à-dire comme une transition entre deux états. Imaginons que l'enfance serait une forme d'état homéostatique avec un équilibre dynamique et que l'âge adulte serait une forme également état homéostatique. Eh bien, l'adolescence serait cette période de transition intermédiaire de passage d'un état à l'autre et du coup qui s'accompagne des caractéristiques principales de ce que c'est la crise de manière générale, c'est-à-dire une forme de déséquilibre, d'instabilisation par rapport à l'état initial qui est celui de l'enfance et d'instabilisation essentiellement motivée, bousculée par les modifications corporelles et hormonales. Que ça implique nécessairement une forme de transition avec un non-retour hein, entre l'état d'enfance et l'état adulte, avec une forme d'accélération, de précipitation développementale, on y revient dans quelques instants, et avec cette forme d'incertitude qui caractérise la crise, mais aussi qui caractérise l'adolescence, c'est-à-dire d'incertitude vers où on va. Et là, quand on voit effectivement ce défi qui consiste à se rentrer une capote dans le nez et la ressortir par l'autre narine, on voit bien que l'adolescence est caractérisée par une forme d'incertitude. Alors, cette notion dans la crise d'accélération, de précipitation, elle est très importante parce qu'elle fait, de la même manière que la notion de crise de manière générale, elle fait la définition de ce que ce serait la crise adolescente, et même l'adolescence. C'est ce qui fait la définition de l'adolescence, c'est comme en fait un phénomène de second ordre. Prenons, pour que ce soit moins abstrait, prenons l'exemple, la métaphore de la courbe de croissance. Quand on regarde une courbe de croissance de la naissance jusqu'à l'âge adulte, on voit effectivement le développement, c'est-à-dire l'augmentation de la taille progressivement, mais on ne voit pas apparaître des périodes développementales qui se discriminent ou qui soient apparentes. Eh bien, quand on regarde le même processus, mais selon un deuxième ordre, et d'un point de vue mathématique, je suis désolé du rappel un peu pénible, mais d'un point de vue mathématique, ça veut tout simplement dire prendre la dérivée de cette courbe-là. En d'autres termes, ne plus s'intéresser à la taille en fonction de l'âge, mais à l'accélération de la taille en fonction de l'âge, eh bien, on voit apparaître des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qu'on voit apparaître qu'il y a deux périodes pour lesquelles il existe une accélération développementale, une vitesse développementale ou une vitesse de croissance, mais qui figure la vitesse développementale de manière très importante, les toutes premières années de vie et l'adolescence. Et là, on voit apparaître effectivement une forme de stabilisation dans l'enfance qui serait cet état homéostatique de l'enfance, une forme de stabilisation à l'âge adulte qui serait cet état homéostatique adulte, et entre l'enfance et l'âge adulte, on a cette accélération, cette précipitation développementale qui caractérise l'état critique que serait l'adolescence. Et qui dit accélération, dit précipitation, dit nécessairement libération d'énergie et donc une forme d'incertitude. Et cette incertitude, elle se traduit comment ? Elle se traduit parce que vous connaissez de la crise de manière générale, c'est-à-dire le fait qu'elle recèle, qu'elle renferme cette crise, deux dimensions conjointes systématiques qui sont celles du potentiel de danger et celles du potentiel d'opportunité. Je ressors ce poncif, mais qui est toujours aussi efficace, cette image qu'on ressort à chaque fois, qui est la traduction chinoise du mot crise français, qui est Weiji, et qui contient dans un seul pictogramme Wei qui caractérise le danger et Ji l'opportunité. Et c'est vraiment très intéressant ce pictogramme, au-delà du fait qu'on l'utilise tout le temps, c'est vraiment très intéressant parce que on voit dans la sémantique même que l'un est indissociable de l'autre. Les deux sont le revers de la même pièce parce qu'en fait c'est une forme de potentiel qui se libère, d'énergie qui se libère et qui peut se diriger soit sous la forme de danger, soit sous la forme d'opportunité. Encore une fois, pour être un peu moins abstrait et pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à la question de l'adolescence, eh bien l'adolescence, il y a, on le sait, une plus grande appétence pour la nouveauté, une tendance à la prise de risque, une tendance à l'impulsivité, des jugements qui sont davantage nuancés ou en tout cas teintés par l'émotion, davantage de sensibilité à la récompense. Eh bien, toutes ces dimensions-là ont une valeur adaptative. Les adolescents ne sont pas que débiles, ou en tout cas, la nature fait en sorte de préserver la débilité des adolescents. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un avantage phylogénétique pour le jeune en lui-même, phylogénétique pour l'espèce et ontogénétique ou ontogénique, c'est-à-dire pour le jeune en lui-même. Ça permet de soutenir les explorations, ça permet d'être plus vigilant aux menaces, ça permet d'adopter et d'apprendre de nouveaux patterns comportementaux, parce que c'est un vrai combat, hein, l'intégration et la reconnaissance sociale, donc d'aller au combat et d'oser faire des choses qu'on n'osait pas en sortant de sa cellule familiale par ce petit surcroît d'insouciance qui nous permet d'aller explorer d'autres contrées, y compris d'autres contrées sociales. À l'époque, quand on était Cro-Magnon, ça permettait une vraie conquête territoriale, d'aller s'exposer au danger en quittant la zone territoriale de sécurité et permettre le brassage génétique. Aujourd'hui, on pourrait considérer que ça permet une forme de conquête sociale et de brassage social, ce qui a un avantage à la fois pour l'individu et pour l'espèce. En revanche, et de manière indissociable de cette valeur adaptative, il y a des préjudices qui sont possibles pour l'individu au moment de l'adolescence. Le fait d'être plus impulsif, plus appétant pour la nouveauté, d'avoir plus de tendance à des prises de risque, eh bien, ça expose davantage aux accidents, aux blessures, aux menaces pour la santé. Ces accidents, blessures et menaces pour la santé sont plus importants à l'adolescence pour certains aspects qu'à n'importe quel autre âge. On pense notamment aux expositions sexuelles à risque. On pense aux accidents de la voie publique qui sont la première cause de mortalité chez les jeunes. On pense également à la morbimortalité qui est augmentée à cet âge-là. Et il y a un excès de morbimortalité très important chez les jeunes qui est pas lié aux maladies, contrairement aux autres âges. Davantage d'exposition à l'adversité. C'est à cette période-là qu'on atteint en fait le rythme de croisière de l'adversité qu'on rencontre et même un peu au-delà au cours de la vie. Et enfin, un surcroît de conduite suicidaire, beaucoup plus d'idées suicidaires et tentatives de suicide que pendant toute autre période de la vie, et beaucoup de suicides, non pas en chiffre absolu, mais de manière relative, parmi la part de mortalité liée au suicide est la plus importante que dans n'importe quelle autre tranche d'âge. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. Donc, encore une fois, cette double balance... valeur adaptative et préjudice possible, et cette double valence, elle a des traductions très concrètes au moment où de prendre en charge, pour le coup, la crise psychopathologique de l'adolescent. Pourquoi ça a des conséquences très concrètes? Eh bien, d'une part, parce que ça a une valeur adaptative. En fait, ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est une grande plasticité de l'adolescence. C'est comme si l'adolescence, c'était de la pâte à modeler, là où l'âge adulte serait davantage comme un caillou. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, quand on veut façonner l'adolescent pour l'accompagner dans sa trajectoire, il y a des opportunités de guérison et de rétablissement qui sont très importantes. On peut façonner cette pâte à modeler. Mais la contrepartie, c'est que si il y a un trouble psychiatrique qui émerge à cet âge, s'il existe des complications, s'il y a une expérience de vie adverse, une crise psychopathologique particulièrement sévère à cet âge-là, le risque, c'est que comme ce soit un coup de poing dans la pâte à modeler, la pâte à modeler garde la marque de ce coup de poing, il y a des conséquences et des risques pronostiques durables. On sait par exemple qu'une tentative de suicide à l'adolescence, indépendamment de toute autre psychopathologie et facteur de risque, augmente le risque d'isolement, de comportement violent, de nouvelles tentatives de suicide, d'affections somatiques, d'affections psychiatriques, et ce de manière durable jusqu'à l'âge adulte. Donc vraiment, quand il s'agit de prendre en charge ces adolescents, double valence, valence adaptative, valence de préjudice possible. Alors, maintenant qu'on a parlé de la crise d'adolescence en tant que crise développementale, on va parler de crise psychopathologique, c'est-à-dire la crise qui fait mal-être, la crise qui est anormale, entre guillemets. Là, ou en tout cas qui génère de la souffrance. On peut parler de cette crise des adolescents au centre de crise, mais encore faut-il pouvoir y arriver au centre de crise, et rien n'est moins évident. Il y a une vraie importance d'accéder aux soins. Prenons l'exemple le plus paradigmatique qui est celui de la crise suicidaire. On sait que l'accès aux soins de santé mentale est inversement corrélé au taux de suicide. Ça, c'est des choses qui ont été montrées. Et en même temps, on sait qu'en Europe, par exemple, les adolescents sont deux fois moins susceptibles d'accéder aux soins que les adultes. Pourquoi ? Il y a plein de causes, mais les principales, c'est un défaut de recherche d'aide. Les adolescents ont beaucoup de mal à rechercher de l'aide. Moins de 50% des jeunes suicidaires recherchent une aide professionnelle. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle des barrières à la recherche d'aide. Et on peut comprendre cette recherche d'aide selon une chaîne successive de recherche d'aide, enfin une chaîne séquentielle, même si chacune des étapes sont très imbriquées les unes avec les autres, une chaîne séquentielle qui va de la prise de conscience et de mesure du problème, l'expression des symptômes et du besoin d'aide. Une fois qu'on a exprimé, il faut que les ressources d'aide soient disponibles. Et enfin, une fois que les sources d'aide sont disponibles, il faut encore pouvoir avoir une volonté de chercher une source d'aide et de s'y confier. Eh bien, les adolescents ont la particularité d'avoir de nombreuses barrières qui viennent entraver les possibilités de recherche d'aide. C'est le cas notamment des difficultés de compétences émotionnelles. Plus un adolescent est jeune, jeune d'un point de vue développemental, jeune en âge civil, notamment 13, 14, 15, mais aussi jeune d'un point de vue développemental avec les immaturités affectives, plus il aura des difficultés à pointer et à discriminer ses émotions. Et en plus de ça, souvent, il y a des difficultés de connaissance des troubles de santé mentale. Par ailleurs, il y a des difficultés chez les jeunes à exprimer les symptômes et les besoins d'aide. S'il y a des difficultés de pointage et de discrimination des émotions, il y a aussi beaucoup de difficultés. Et c'est des compétences qui sont très liées au développement psychoaffectif, d'expression émotionnelle, et d'expression émotionnelle suffisamment discriminée. Autant, en fait, être capable de dire « oui, je me sens mal et j'ai besoin d'aide », c'est quelque chose qui, d'un point de vue développemental, est extrêmement exigeant. Par ailleurs, parfois, il y a un manque de disponibilité du milieu, ce qui est le cas souvent dans les crises, dans les situations de crise où c'est généralement une crise de système qui s'installe, une crise notamment familiale, et c'est notamment le cas pour les adolescents qui ont une insécurité affective pour lequel demander de l'aide, c'est très vulnérant ou peut être vulnérant narcissiquement. Par ailleurs, des difficultés de disponibilité des sources d'aide, je ne vais pas y revenir, ça c'est des choses, je pense, dont vous aurez déjà largement discuté, c'est-à-dire cette béance qui existe entre la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'une part et la psychiatrie de l'adulte d'autre part, et donc cette espèce de période que j'appelle la période des Bermudes, entre 16 et 18 ans, où les adolescents disparaissent, où il y a des trous dans leur parcours et où c'est vraiment difficile d'accéder aux soins. Et puis, tout simplement, c'est des gens qui sont dépendants financièrement et au niveau de leur mobilité pour accéder aux soins. Et enfin, une volonté de recherche d'aide. Eh bien, la volonté, elle peut être bridée par la stigmatisation, par le manque de confiance sur la confidentialité, par exemple, des sources d'aide qui va pouvoir leur être apportée. Ça, c'est la notion de confidentialité très importante chez les jeunes. Ce qui est même plus que la volonté d'indépendance et le crainte de l'aliénation, c'est vraiment ce souci de ne pas inquiéter autrui, en particulier la famille, qui est vraiment une barrière très importante à la recherche d'aide. Et cette barrière à la recherche d'aide, elle est d'autant plus importante, en réalité, que les jeunes sont en détresse, donc importante de manière développementale, physiologique, mais d'autant plus importante de manière pathologique, c'est ce qu'on appelle le biais de négation d'aide. Plus je vais mal, moins j'ai tendance à demander de l'aide. Alors, les approches recommandées pour faire face à ces défauts de demande d'aide, c'est une approche globale, c'est-à-dire qui prenne en charge les différents secteurs l'accompagnement sanitaire, médico-social, social, les différents types d'actions qui sont à mettre en place, une approche développementale. On a vu à quel point les compétences et l'âge développemental étaient importants en termes d'expression, de repérage, de réponse à offrir, de manière et d'attitude à adopter, une approche écosystémique qui prenne en compte l'adolescent et son environnement, environnement familial, scolaire, environnement amical, et surtout une approche proactive. On en termine de cette logique qui consiste à dire on attend que l'adolescent ait une demande, on attend que l'adolescent soit motivé. C'est trop exigeant d'un point de vue développemental. Si l'adolescent est capable d'être motivé, de demander de l'aide explicitement, de montrer des garanties de son engagement, c'est que déjà il va beaucoup mieux et on ne peut pas attendre ça, donc il faut aller au devant de l'adolescent. Et donc ces quatre approches sont recommandées par la HAS. Quel parcours pour l'adolescent? Alors, pour répondre à ça, l'idée, c'est une proposition de modèle, c'est le modèle du portail ou du portail dynamique, le paradigme du portail dynamique. Et ce que je veux vous proposer, c'est de prendre la maison des adolescents comme une illustration, comme un paradigme de ce que pourrait être un portail dynamique. Alors, qu'est-ce que j'appelle un portail dynamique? Un portail dynamique, c'est une structure ou un dispositif de manière suffisamment souple qui porte quatre grandes missions: la mission de facilitation, la mission d'augmentation, la mission de personnalisation et la mission de maintien. Comment ça se traduit concrètement ces différentes missions? Première chose, la facilitation. L'idée, c'est d'avoir un site, un dispositif, une organisation qui soit suffisamment visible, lisible et non stigmatisé pour faciliter l'arrivée des jeunes. Et surtout, c'est un dispositif qui doit être extrêmement souple, selon le précepte anglo-saxon qui a été vraiment très développé, par exemple, en Australie, qui est la notion de « every door is the right door », toutes les portes sont des bonnes portes, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre, faut libérer le plus possible de barrières pour l'accès aux soins, et surtout pour la visibilité. L'idée, c'est qu'on ait une forme de guichet, pas unique, mais en tout cas très visible, très lisible, et éviter les millefeuilles qu'on peut malheureusement connaître en France et qui sont très compliquées à comprendre pour les jeunes. Ensuite, l'idée, c'est qu'on attrape les jeunes par le tout petit bout de leur motivation et de leur engagement. Parfois, ils n'ont pas envie de venir, c'est pas grave. Parfois, ils veulent pas parler, c'est pas grave. Parfois, les parents viennent et pas les ados, c'est pas grave. L'idée, c'est juste de les attraper par le tout petit bout de la motivation et de faire ce travail en propre, qui est un travail en soi de renforcement du lien, de l'alliance, du capital, de faire gonfler le capital de confiance qu'il y a avec le jeune. Il y a vraiment un travail d'augmentation de l'alliance et qui est fait pour le compte, non pas du portail, mais qui est fait pour le compte de l'ensemble du système d'accompagnement pensé comme un ensemble. C'est-à-dire qu'on va augmenter la confiance du jeune avec le système d'accompagnement. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir faire diffracter les besoins du jeune. C'est-à-dire de se dire, ok, ce jeune diffracté, ça ne veut pas dire de manière mutuellement inclusive, hein, mais ça veut dire, ok, de quoi ce jeune a besoin et qu'est-ce qui serait le plus pertinent ? Ça peut être du sanitaire, hospitalier ou extra-hospitalier, CAC ou CMP, ça peut être du non-sanitaire, du médico-social, de l'associatif, et l'idée, c'est d'orienter vers les bonnes ressources, vers des ressources qui sont les plus adéquates, ce qui permet de réguler en amont des dispositifs et des structures et éviter d'encombrer les structures avec des demandes qui ne seraient pas forcément adéquates et ce qui est vecteur d'errance a priori. Puis vous voyez, il y a un des rayons qui s'arrête là, tout simplement parce que le portail, en tant que portail dynamique, peut offrir une réponse en lui-même, une forme d'intervention qui permet parfois d'éviter de orienter dans un second temps. Et ça, c'est vraiment, en fait, on y reviendra, mais les interventions de crise. Et enfin, le maintien, non pas que le portail maintienne le lien avec les jeunes à tout jamais, mais tout simplement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre le portail et les différents dispositifs, qu'il y ait une continuité la plus complète possible. Et ça, ça se fait par du tuilage, ça se fait par la liaison, ça se fait par l'accompagnement, de l'orientation soutenue, où on prend rendez-vous avec le jeune, on les accompagne, etc. etc. Eh bien, la maison des ados fonctionne vraiment comme un portail dynamique, c'est-à-dire que elle vise à faciliter l'accès. Comment ? Bah, c'est un dispositif qui est assez visible, qui est très accessible en centre-ville, qui est non étiqueté, qui est youth friendly, c'est-à-dire qui est vraiment dans son architecture, dans la déco, dans la manière de parler, de discuter, dans le régime discursif qui a lieu très orienté vers les jeunes, qui est surtout spécifique, ni enfance ni âge adulte, et qui est le plus inclusif possible. Et puis surtout, on est défini par des bornes d'âge développemental, 11-21 ans, qui recouvrent la fameuse période des Bermudes. Qui est-ce qui augmente ? Eh bien, c'est un accueil, un primo-accueil par évaluation de première ligne, travailleurs sociaux et infirmiers ou infirmières, qui ont pour but, certes, de faire la première évaluation, mais surtout de renforcer l'alliance avec le jeune. Et quand l'alliance ou la confiance est vraiment très restreinte ou très abîmée, eh bien, on pourra faire appel à des médiations, faire appel à des groupes, mais c'est un travail en soi, que cette première ligne d'évaluation à la maison des ados, que d'augmenter le lien pour le compte du système d'accompagnement. Puis la personnalisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une évaluation de première ligne, il peut y avoir une évaluation, une orientation vers des différents dispositifs à l'intérieur de la maison des ados, psychiatre, nutritionniste, conseil juridique, addicto, sexo, travailleur social, psychologue. Et ensuite, donc il y a une évaluation de seconde ligne qui permet à la fois de faire l'évaluation, mais aussi de faire une intervention circonscrite, limitée dans le temps, si besoin, et si besoin, une orientation dans un second temps vers les différents dispositifs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, associatifs. Et évidemment, des liens étroits avec ces différents dispositifs en termes de partenariat, en termes de transmission, afin de maintenir le lien avec ces dispositifs. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Quel est le rapport avec la crise ? Quelle est la pertinence du modèle du portail dynamique ? Eh bien, premièrement, s'il n'y a pas d'urgence et s'il n'y a pas besoin d'une hospitalisation, en fait, le travail de crise se fait à la maison des adolescents. Pour les adolescents, c'est la temporalité et la souplesse qui existent à la maison des adolescents se prêtent particulièrement à l'intervention de crise. C'est-à-dire que après le repérage de la crise par cette première ligne et le travail d'alliance, eh bien, il va y avoir au moment de l'intervention de deuxième ligne par le psychiatre, le travailleur social ou le psychologue, une intervention circonscrite dans le temps qui vise vraiment, selon les préceptes de la crise, à repérer le problème, à repérer en quoi est-ce un problème, à pouvoir modifier les équilibres qui sont en place, à travailler avec la famille, à travailler avec l'entourage, à remobiliser. C'est à proprement parler ce que l'on fait dans les interventions circonscrites. Et lorsque c'est nécessaire, on oriente dans un second temps, quand il y a de la psychopathologie qui persiste et pour laquelle il y a besoin d'une orientation, eh bien, on oriente dans un second temps vers un dispositif. Donc déjà, en soi, la maison des ados fait du travail de crise. Mais la question se pose, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce qu'il y a une importance quand il y a une crise qui nécessite une crise psychopathologique, qui nécessite une hospitalisation? Alors concrètement, comment ça se passe? En général, le repérage de l'urgence est réalisé par le travailleur social et ou l'infirmière de première ligne. Tous les travailleurs sociaux sont formés à être sentinelles en prévention du suicide. Toutes les infirmières et les infirmières sont formées à évaluer une crise suicidaire. Quand le psychiatre est là, c'est le psychiatre qui fait l'évaluation et qui oriente vers le centre de crise qui travaille cela. Quand le psychiatre n'est pas là, il y a une orientation vers les urgences et éventuellement, du coup, une orientation dans un second temps vers le centre d'accueil et de crise. Quel est l'intérêt? Ça peut paraître très bateau comme montage, et pourtant, quel est l'intérêt de ce genre de montage, par exemple, par rapport à un service d'urgence simple, parce qu'on pourrait dire que tout le monde va aux urgences? Eh bien, tout simplement parce que ça permet de réduire les différentes barrières à la recherche d'aide pour les ados qui sont en crise. C'est-à-dire qu'on les aide notamment au pré-travail de crise ou au travail de pré-crise, ça dépend comment on le voit, en les aidant à prendre conscience du problème sur place, parce qu'on essaie d'avoir un abord développemental très développé qui permet de faciliter les repérages émotionnels et l'expression émotionnelle, que la facilité d'accès, le présupposé de légitimité, c'est-à-dire que toute demande à la maison des ados est considérée comme légitime, permet d'orienter et permet surtout d'avoir une ouverture très large qui facilite l'arrivée. Et enfin, l'abord développemental non étiqueté youth friendly permet de faciliter également la volonté de recherche d'aide. Et tout ça fait en sorte qu'il y a une vraie facilitation de passage par la maison des ados qui explique notamment que plein de jeunes qui sont en crise ne vont pas aux urgences, ne vont pas au CMP, mais vont à la maison des ados alors qu'on n'est pas étiqueté urgence. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait vraiment un travail de propédeutique, c'est-à-dire de préparation au travail thérapeutique qui peut être faite au centre d'accueil et de crise. Donc on fait un pré-travail de crise, on augmente le capital de confiance, on pose d'abord les jalons du repérage du problème et de voir en quoi c'est un problème, de qu'est-ce qui fait crise, des ruptures dans les parcours de vie. On travaille à l'augmentation du capital de confiance. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Les jeunes ne veulent pas aller au centre de crise, on sait qu'ils en ont besoin. On prend de manière resserrée 2-3 consultations pour les orienter. On mobilise les partenaires d'emblée, partenaires professionnels, sanitaires, médico-sociaux, sociaux. Et parfois, même, on fait des actions de protection des mineurs. S'il faut faire une IP, on fait une IP. S'il faut faire un signalement, on fait un signalement. Et une fois que le jeune est orienté au centre d'accueil et de crise, le but, c'est pas de le lâcher, on potentialise, c'est-à-dire que surtout, on évite à tout prix le clivage. Il n'est pas rare que les parents nous appellent, et dans ce cas-là, on les met en confiance, on renforce la confiance, leur confiance pour l'hospitalisation, on les éclaire, on les informe. Il n'est pas rare que les jeunes nous appellent depuis le CAC, et dans ce cas-là, pareil, on travaille le renforcement de la confiance aux équipes du CAC et l'alliance qu'ils peuvent avoir avec eux. Donc, il y a vraiment un rôle de potentialisation. On prend toujours des nouvelles des jeunes qui sont hospitalisés. Et quand les jeunes sortent du CAC, en général, ils ont quand même besoin d'un suivi. Ils sont orientés vers un centre médico-psychologique, vers un libéral. Ça peut prendre du temps du fait des engorgements. Et bien, dans ce cas-là, nous, à la Maison des Adolescents, on travaille à faire l'intermittence entre le CAC et le CMP. On les voit pour pas qu'il y ait de rupture de parcours. Donc voilà, il y a vraiment cet effet de potentialisation, cet effet de soutien des parcours. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. J'ai tenu 25 minutes. Je pense que Maxime avait autorisé, voire demandé à durer un tout petit peu plus que 20 minutes. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à vos questions là tout de suite. En tout cas, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur charles-edouard.notre-dame@chru-lille.fr. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.